Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, nous sommes mercredi et tous les mercredis à 16h, notre rendez-vous est consacré à l'Université de Lille. Voilà une demi-heure donc aujourd'hui dans laquelle nous parlerons de science avec nos invités qui sont présentés par Noémie qui nous a rejoint. Noémie Glore, bonjour.
Salut René, salut à tous et à toutes.
Heureux de te retrouver à ce micro. Hein.
Bah moi aussi.
Donc je te confie les rênes aujourd'hui pour présenter nos invités et ce thème hein, qui est la maison pour la science fête ses 5 ans.
Tout à fait, donc aujourd'hui c'est un jour de fête. La maison de la science donc fête ses 5 ans et on accueille avec nous sur Radio Campus Jean-Philippe Cassard qui est directeur de la maison pour la science Nord-Pas-de-Calais. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Madame Tilane Lou, directrice adjointe de la maison pour la science du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour.
Bonjour Noémie.
Donc je vais vous laisser vous présenter qu'est-ce que c'est la science fête ses 5 ans. C'est quoi tout ça?
La Maison pour la Science, hein, donc, c'est une structure qui a été créée donc, il y a 5 ans. Et on a le plaisir ce matin de fêter notre anniversaire. Hein, il y avait une 50aine de personnes, le président de l'université, le représentant de la Fondation La Main à la Pâte, le représentant de la rectrice hein, et nos formateurs, nos partenaires, dans une ambiance conviviale.
Festive
hein. Je dirais pas festive, mais conviviale parce que, et chaleureuse. En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir parce que c'est grâce à tous ces gens qu'on peut proposer à des enseignants d'écoles et collèges des formations qui leur permettent de rendre la science plus attractive auprès de leurs élèves. Et notre objectif, c'est cet objectif-là, c'est que la science s'arrête, hein, ça cesse d'être un pinsum, le truc compliqué qu'on ne comprend pas, et que ça devienne quelque chose, au contraire, d'attractif, qu'on a envie d'explorer, qu'on puisse développer la curiosité, l'intérêt, hein, le plaisir de la découverte, plutôt que l'embêtement, enfin, ou l'ennui des choses qui sont à apprendre par cœur. Voilà.
Tout à fait, c'est très important et on vous en remercie parce que la science, c'est quelque chose de vaste et compliqué. Donc, Tilane Lou, vous êtes la directrice adjointe de la Maison pour la Science Nord-Pas-de-Calais, je le répète, oui. Parce qu'il faut retenir tout ça quand même, c'est important. tout à l'heure, en voix off, on a parlé de l'accessibilité de la science. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'accessibilité et le travail que vous faites avec la Maison de la science, la maison pour la science, pardon.
Oui, c'est la maison pour la science. Alors, c'est vrai que depuis 5 ans, on travaille donc sur des formations, comme Jean-Philippe le disait, notamment sur des formations pour les enseignants du primaire et de collège. Alors, pourquoi les enseignants du primaire? La plupart sont issus de filières littéraires et ont peu de formations en sciences. Donc, beaucoup d'enseignants qu'on rencontre sur nos formations sont mal à l'aise, n'osent pas mettre en place des sciences, ils ont peur de se tromper, de ne pas avoir la bonne réponse. Et nous, on essaie de dédramatiser un petit peu tout ça et de voir avec eux comment on peut aborder la science autrement que par les résultats de la science. C'est-à-dire qu'on préfère les faire manipuler et surtout les faire chercher. Ça, c'est vraiment le point d'honneur qu'on met sur nos formations. Donc, si on n'a pas les réponses, ben, c'est pas grave, on cherche. Et c'est ce qui est très, très important et ce qui permet aussi de dédramatiser la science.
Oui, c'est hyper important parce que la science, c'est un mot qui est, pour ma part, que je trouve impressionnant et c'est hyper vaste. Enfin, tout à l'heure, on disait il y a les sciences des vies de la Terre, il y a les sciences sociales. C'est déjà, est-ce qu'on pourrait définir ensemble qu'est-ce que c'est les sciences en général, brièvement
hein. Alors, je vais tenter, hein, sachant que c'est...
oui, c'est très compliqué. C'est
un challenge hein, de définir la science. Moi, je dirais que la science, c'est d'abord une démarche. Hein, c'est-à-dire que souvent on pense que la science c'est des connaissances, mais en fin de compte la science c'est une démarche, c'est une manière de regarder le monde pour le questionner en permanence. Hein, et souvent on se dit le scientifique il sait, non le scientifique il cherche, et c'est pas parce qu'il trouve pas, mais c'est que chaque fois qu'il a trouvé quelque chose, il pense qu'il y a une limite à la connaissance et qu'il peut aller plus loin. Hein, si le jour où un chercheur arrête de se poser des questions, c'est plus un chercheur et c'est plus un scientifique.
Et c'est ça, c'est exactement ça, parce qu'en fait, quand on pose une question, on a une autre question en général si la question est bonne.
Voilà, et ça, c'est valable que ça soit dans le champ des sciences naturelles et expérimentales, qui est notre champ d'intervention, ou dans le champ des sciences humaines et sociales, parce que ce qui mène, enfin, ce qui motive les chercheurs, hein, c'est justement la limite de leur connaissance, savoir s'ils peuvent aller plus loin, s'ils peuvent affiner, mieux comprendre, pour mieux prédire aussi.
Et d'ailleurs, tous les éléments de réponse qu'apportent les chercheurs sont en permanence remis en question, et le chercheur accepte cette remise en question qui est fondamentale en science.
Et partout, je pense, dans les sciences. Enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les sciences sociales, dans les sciences humaines et dans les sciences de la vie et de la Terre. Ça me fait penser à autre chose, c'est... vous avez employé tout à l'heure le mot co-construction. Donc, c'est un mot qui m'a marqué. Qu'est-ce que vous entendez par la co-construction dans la science ?
Alors, les formations qu'on mène donc à la Maison pour la Science sont co-construites, effectivement. Alors elles sont co-construites, pardon, par des scientifiques et ce qu'on appelle des pédagogues. Alors, ça ne veut pas dire que les scientifiques ne sont pas pédagogues et inversement parlant, mais les scientifiques, c'est quelqu'un dont le métier est la science, donc un enseignant-chercheur, un industriel aussi. Et les pédagogues, on va parler plutôt des personnes de l'éducation nationale, des enseignants. Et donc, nos formations, elles sont co-construites pour vraiment avoir un regard à la fois sur le monde scientifique, mais qui soit ancré avec... les programmes à l'école scolaire, comment on peut visualiser la science qui se fait actuellement dans les laboratoires et la transposer en classe.
C'est l'appliquer, en fait.
Voilà, exactement. Trouver les axes sur lesquels on peut travailler pour aborder les sujets en classe.
Et c'est très important, et d'ailleurs c'est un sujet d'actualité, notamment avec le rapport du GIEC, enfin ce fameux rapport qu'on entend énormément parler sur le climat. Et c'est justement, on a les chiffres sont là, le rapport est d'ailleurs assez alarmant et alarmiste. Pourtant on a tous les chiffres, mais est-ce qu'on agit ? Ça, c'est une vaste question, et tout le monde se la pose en ce moment, et on nous reproche beaucoup, à nous les médias, de pas assez parler de ce rapport alarmant et d'agir, en fait.
Alors, on essaie d'agir sur plusieurs niveaux. Hein. Nous, on a, à notre échelle, on a des formations qui reprennent cette thématique. On a une formation qui s'appelle « Quel temps pour demain ?» et on va aborder la différence, notamment, entre la météo et le climat. On travaille aussi au-delà des formations. On suit des collèges qu'on appelle des collèges pilotes qui travaillent beaucoup autour de cette question. Et notamment, je citerai le collège de Berck, Jean Moulin, où ils travaillent sur
à
les
Lille. Excusez-moi,
non,
c'est
non, alors, à Berck.
À Berck.
Le collège de
Berck,
donc Jean Moulin. Et donc là, c'est les élèves du collège, donc tout le niveau confondu, travaillent ensemble avec un scientifique sur le ramassage des déchets plastiques sur les plages. Et donc, ils font des quadras. Donc, en fait, ils font des espèces de carrés. Donc, il y a tout un protocole scientifique qu'ils ont mis en place avec leurs parrains. Et ils vont sur les plages pour essayer de récolter et de classer tous les déchets qu'ils trouvent.
Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'au départ, la démarche du collège, c'était de faire une action citoyenne de nettoyage de plages.
Tout à fait, oui.
Et l'apport du scientifique a été de leur dire, mais si vous voulez faire de la science à partir de ça, il faut un protocole, il faut une démarche, et il faut sortir du quantitatif pour analyser ce que vous ramassez, pour essayer de comprendre ce que sont les déchets.
Il y a toute une logique, en fait.
Voilà, il y a toute une logique scientifique, et ce projet, en fin de compte, il a abouti au dépôt par le scientifique d'un projet dans le cadre de l'ICIT, en sciences participatives, puisque, en fin de compte, la société civile, à travers les élèves, participe à la recherche, et ils ont été retenus dans les projets qui seront financés par l'ICIT. Donc là, on voit bien l'intérêt de l'échange entre le monde de l'éducation, de l'enseignement et celui de la recherche.
C'est ça, c'est un échange et une interdisciplinarité aussi.
Oui, tout à fait.
Oui, parce que ce qui est chouette dans ces projets avec les collèges pilotes, c'est que absolument l'ensemble des enseignants du collège sont impliqués. Donc que ce soit les professeurs d'anglais, d'histoire géo, de mathématiques, de SVT, de physique chimie, de techno, ils sont tous impliqués et ils ont tous quelque chose amené en fait dans le projet.
Il y a toujours cette idée de plus-value, on peut tous contribuer à notre échelle et selon les matières. Et ça me fait penser aussi que l'objectif zéro déchet, en plus on en parle énormément, et en plus le tri, c'est quelque chose de complexe parce que ça change en fonction des différentes communes. Enfin, je voudrais pas dire d'erreur, mais en tout cas, c'est moi, j'ai toujours des questions et je me dis, mais ça, faut que je le recycle, mais là-bas, je peux le recycler, je comprends pas. Enfin, comment on explique ça à des jeunes, encore plus jeunes que moi, du coup?
Alors, on a eu un projet de formation là-dessus. Après, on ouvre quelquefois des thèmes. Et puis les gens s'inscrivent ou s'inscrivent pas. Bon, donc ça c'est. Mais ce qui est clair, c'est que par exemple sur le tri du déchet, des déchets, ce qui est important, c'est de comprendre deux choses. Pour trier, donc quels sont les matériaux et leurs capacités, comment on peut leurs propriétés physiques qui vont permettre de les trier, et du coup la complexité de ce qui se passe dans un centre de tri. Et la deuxième chose, c'est de comprendre. La chaîne de production et de tri. Parce que le zéro déchet, c'est toujours pareil. Le zéro déchet, c'est je retrie tout ou je ne produis plus.
Oui.
Et c'est, alors souvent, on se laisse enfermer dans une des deux problématiques, alors que si on veut vraiment avoir un regard citoyen sur l'ensemble, et c'est ça qu'on essaye de montrer aux enseignants, c'est qu'il faut avoir aussi une vision globale. Hein. Et on a le même problème sur l'énergie. Je peux regarder si tel mécanisme est efficace énergiquement, mais la question, c'est qu'il faut que j'ai une vision qui soit globale de la phase de production jusqu'à la phase du recyclage.
Et une certaine opacité en plus sur toutes ces questions. Voilà. Non ?
Donc on essaie de donner des clés de questionnement. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est-à-dire qu'on ne va pas apporter toutes les réponses parce que dans tous les domaines, il y a à approfondir. Mais on les apprend plutôt à se questionner en disant, attention, donc, par exemple, dans cet article, ou sur ce sujet-là, il y a une réponse, mais cette réponse, elle est partielle.
Tu demandais un peu comment sensibiliser les enfants. Nous, on pense que l'école, c'est un bon vecteur, et que c'est pour ça aussi qu'on mène des formations sur ces domaines. Donc, on a parlé du Quel temps pour demain, on a les collèges pilotes, donc ce sont des collèges qu'on accompagne particulièrement. On leur trouve un parrain scientifique, on fait des formations qui proposent beaucoup de thématiques autour du développement durable. On a aussi une autre formation, tu parlais des déchets. Alors nous, on n'est pas parti sur le tri, mais sur le bioplastique. Oui. Qu'est-ce que le bioplastique ? Qu'est-ce qu'un matériau biosourcé ? Est-ce que biosourcé veut dire biodégradable ? Voilà, c'est aussi informer sur toutes ces possibilités-là. Et on peut parfois faire des erreurs en pensant que biosourcé, c'est biodégradable, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et on est là aussi pour montrer les différences là-dessus.
Et je trouve que même sur les packaging et les logos, les significations des logos, c'est assez opaque parce qu'en fait, il y a des logos, je peux pas vous le dessiner à la radio, ça va être compliqué, je vais pas vous le décrire, mais qui veut dire, jusqu'à hier, je pensais que ça voulait dire recycler, et alors que pas du tout, ça veut juste dire que c'est biosourcé, ou enfin c'est avec des composants.
Oui, ou alors que c'est... que l'entreprise contribue financièrement.
Voilà, c'est ça. Et ça, il faut le savoir. Et Alice avait une question,
il
me semble.
Non, au final, vous avez plus ou moins répondu. C'était comment vous arrivez à donner les clés aux enseignants pour qu'eux, ensuite, arrivent à transmettre justement tous ces messages aux enfants. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'effet que les enseignants peuvent avoir sur les enfants, notamment en école primaire, parce que je pense que c'est à cet âge-là que tout se joue plus ou moins, et les enfants sont des éponges, ils ont envie d'apprendre. Comment les enseignants font pour s'adresser à un jeune public en utilisant des mots adaptés
Alors, moi, je pense que la meilleure des clés, je ne sais pas si tu as raison, Jean-Philippe, c'était la même chose que tu voulais dire, c'est la motivation. Mmh. Si on veut motiver les élèves, il faut motiver les enseignants. Il faut aussi leur donner du plaisir et la curiosité de découvrir.
La soif du savoir.
Exactement. Ouais. Et encore une fois, dédramatiser les sciences.
C'est-à-dire que, c'est ce que Tylan disait au début, c'est-à-dire que comme la plupart des enseignants ne se sentent pas à l'aise en sciences, il n'y a rien de pire pour démotiver des élèves qu'un enseignant qui arrive avec un petit peu la réticence, la peur au ventre, qui va faire la séquence de science parce qu'il faut faire une séquence de science et qui ne se sent pas motivé pour le faire. Et la réponse, c'est de leur montrer. Et donc, notre manière de faire, c'est de mettre les enseignants en situation à leur niveau d'adulte la situation qu'on voudrait qu'ils vivent avec leurs élèves.
Du coup, vous avez une sorte de boîte à outils ?
Alors, on a à chaque fois, on les met, pour chaque thème, on cherche une situation questionnante et on les laisse travailler comme ils devraient faire travailler leurs élèves. Mmh. Et ils se rendent compte que, donc en petits groupes, hein, c'est toujours du travail en groupe de 4 ou 5, avec des questionnements, et ils se rendent compte que, un, eux, même avec leur petit bagage scientifique, ils sont capables de construire des réponses. Quelquefois, ils se confrontent à des difficultés, mais on leur montre que ces difficultés, c'est aussi celles de leurs élèves.
Hein, et d'ailleurs, la première réaction quand ils sont face à des difficultés, c'est de nous questionner ou de questionner les formateurs pour avoir les réponses. Mm-hmm. Alors que non, et c'est à eux de trouver. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant, mais on se prend vite au jeu et après...
Justement, comment... alors déjà, est-ce que vous voyez des résultats après cette formation, des résultats qui sont prometteurs? Et eux, les enseignants, comment est-ce qu'ils réagissent une fois que ils ont réussi à mettre des choses en place? Est-ce que vous avez des retours là-dessus?
Alors, on a pas mal de retours parce que maintenant, ça fait 5 ans. Donc, on voit un peu des choses qui se mettent en place dans les établissements suite à notre passage. Mm-hmm. Là, on voit le plus de retours, c'est dans les circonscriptions. Donc, c'est là où on fait nos formations sur le territoire, donc dans toute l'Académie de Lille, auprès des enseignants du premier degré. Donc, le premier degré, c'est maternelle et primaire. Mm-hmm. Et là, on fait des formations en 2 fois 3 heures. On fait une première formation de 3 heures d'apport à la fois pratique, puisqu'on fait questionnement, on fait des mises en situation, un peu de théorie aussi pour qu'ils aient un bagage un peu plus scientifique, un peu plus conséquent. Et puis, on regarde un peu comment ils peuvent mettre en place cette thématique en classe. Et on leur pose des défis. Et ils vont dans les classes, ils mettent en place leurs défis, on les laisse un peu autonomes. Le but, c'est d'expérimenter. Quitte à se planter, on se lance, on fera mieux l'année prochaine. Mmh. Et ils reviennent, et le deuxième jour, on débriefe sur ce qui a été fait, on apporte des pistes, on essaie d'améliorer, etc. Et là, on a beaucoup d'enseignants qui nous disent « Mais on n'était pas convaincus quand on est venu à la formation de sciences, mais quand on repart, ça y est, on est motivé et on peut faire des choses. »
C'est le plus beau des retours, je pense.
Et c'est vrai que là où ça nous fait plaisir, c'est que, par exemple, quand des enseignants nous disent « Mais on ne pensait pas que nos élèves ils seraient capables d'aller aussi loin. »
Oui, hein,
c'est-à-dire que quelquefois, il y a une sorte d'a priori sur « ils ne seront pas capables ». Mais en fin de compte, le problème, c'est que si on les accompagne en étant progressif dans la démarche, en les laissant se poser des questions, en les laissant échouer...
C'est la bienveillance.
Si on est bienveillant, exactement.
Très important.
Ouais. Les élèves sont capables d'aller très très loin et dans le questionnement et dans les réponses qu'ils trouvent.
Et
ils se rendent compte que quelquefois, ils ont des propositions auxquelles ils ne s'attendaient pas, qui sont des propositions super intéressantes et qui permettent d'avancer. Quoi.
Et on essaie de rendre possible aussi, notamment, surtout à l'école primaire, le « je ne sais pas » des enseignants, qu'ils osent dire ça.
Et le « je ne le sais pas » de l'élève aussi.
Du citoyen, en fait. C'est important de savoir dire « je ne sais pas ».
Le « je ne sais pas », il ne veut pas dire « je ne sais rien ».
Ouais.
Et moi, j'ai un exemple d'une enseignante qui me disait « j'ai mis en place une démarche sur une plante, de quoi avait-elle besoin pour pousser ?» Donc lumière, eau, etc. Et elle a mis avec ses élèves cette plante dans un placard et elle s'attendait à ce que la plante ne pousse pas, mais la plante a cherché la lumière, elle a poussé 2 fois plus que celle qui était à l'extérieur, mais elle était toute jaune. Et donc elle me dit, j'étais un peu désorientée, mais en fait, non, il y a quand même une constatation avec ses élèves, c'est que la lumière a un impact sur la croissance de la plante.
Et ça, c'est des erreurs et des questionnements qu'on retrouve partout dans notre quotidien.
Exactement.
Enfin, tout le monde arrose ses plantes quand on en a parfois on sait même pas quelle est la plante et on cherche et on peut se tromper, mais on finit par trouver
alors vous venez d'utiliser on peut se tromper.
Oui.
Alors ça c'est quelque chose qui est fondamental auprès des enseignants, c'est leur montrer que l'erreur de l'élève n'est pas un échec.
Exactement.
ni de leur part ni du côté de l'élève, mais au contraire c'est un point de départ.
Ça, c'était pas acquis chez les enseignants encore pour certains.
Parce que l'erreur est humaine.
Il y en a qui ont encore du mal à dire que c'est pas grave.
Je peux vous dire qu'à la fin de certaines formations, quand on fait le bilan, il y a des enseignants qui nous disent « Aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que mes élèves ont le droit de se tromper. »
Ah là là, d'accord.
Oh là là.
Et ça, c'est quand il y a cette prise de conscience-là, on se dit qu'on a un rôle, enfin, qu'il s'est passé quelque chose et qu'on a avancé.
Et surtout, ça nous met dans une ambiance de pression de se dire qu'on n'a pas le droit de se tromper, en fait. C'est...
Et l'acceptation de l'erreur, si les enseignants l'ont pour leurs élèves, ils ne l'ont pas forcément pour eux-mêmes.
Ah oui,
et ça, c'est une autre étape à franchir.
Mais c'est très important, tous ces sujets qu'on aborde, c'est même presque un peu philosophique, je trouve.
Ah oui.
Et du coup, vous intervenez que dans le Nord, enfin c'est déjà beaucoup, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. Est-ce qu'il y a des commissions similaires ouais. dans les autres régions?
Donc
c'est
nous,
ça,
on est la maison pour la science Nord-Pas-de-Calais, hein, donc on intervient sur l'Académie de Lille. On est un réseau de 10 maisons pour la science, donc il y en a en Aquitaine, il y en a
Midi
en centre,
voilà. Alsace,
Île-de-France,
voilà. Et on a la fondation, donc toutes ces maisons sont émanent de la fondation La Main à la Pâte,
d'accord.
qui prône cette démarche d'investigation. Et donc on travaille ensemble, on forme un bon réseau où
on échange les pratiques, les questionnements, les thèmes de formation,
et c'est important,
etc. Voilà.
De tous se rassembler voilà. géographiquement.
De partager nos...
Vous intervenez uniquement auprès des enseignants ou vous acceptez d'autres personnes, par exemple, je sais pas, je pense à des parents qui voudraient aussi, j'en sais rien, non, mais parce que on parlait de la possibilité d'échouer. Ça s'apprend, enfin l'enfant l'apprend à l'école, mais si les parents laissent pas la possibilité d'échouer à leurs enfants, bah après on part sur autre chose. Mais je sais pas, imaginons, c'est qu'aux enseignants.
Vas-y.
Donc notre cible principale, c'est les professeurs d'école et collège.
D'accord.
Ceci dit, on a mis en place... Alors, nos formations sont ponctuellement ouvertes aussi, parce que souvent, il peut rester des places et on trouve que c'est un peu bête. Dommage que ces formations ne profitent pas à un maximum de gens. Donc, on peut l'ouvrir à des médiateurs, par exemple, de centres de culture scientifique ou à des animateurs ou d'associations. Hein. Ça, c'est une première chose. Et on a créé aussi des ateliers là, ouverts grand public sur, en gros, la thématique, c'est comprendre ce que c'est que la science.
Mm-hmm.
Hein, à travers quelques thèmes hein, du style qu'est-ce que c'est que la connaissance scientifique, qu'est-ce que c'est que un modèle scientifique, la différence entre technologie et science, et puis
et qu'est-ce que l'esprit critique
et l'esprit critique et en quoi la science
on
apporte des choses.
Voilà.
on est là-dessus, on se rejoint, c'est dans la mesure où on a besoin d'aller un peu au cœur des choses pour bien les comprendre.
Mm-hmm.
Hein, et que si on s'en tient à un discours un peu général, on ne va pas comprendre les enjeux. Mm. Pour comprendre les enjeux, il faut approfondir et aller au cœur de ce qui est... Enfin, quand je dis enjeu, c'est-à-dire en jeu aussi.
Oui.
Hein, dans le fait qu'il se passe quelque chose et la compréhension, elle nous aide aussi à décoder les fake news, les... pourquoi entre croyance, quelle est la différence entre une connaissance scientifique et la croyance, qu'elle soit religieuse ou d'ailleurs conspirationniste ou autre quoi. Ouais, voilà.
Et du coup, est-ce qu'on peut parler de vulgarisation de la science? Est-ce que vous direz que la maison...
C'est une forme de vulgarisation, après, ou une médiation, ou... Voilà.
Oui, on peut dire plein de choses,
oui,
en fait.
C'est tout le travail des formateurs et des intervenants qui sont sur nos formations. C'est de travailler ensemble, et c'est pour ça qu'on aime bien croiser les regards entre les différents publics, notamment au niveau de nos intervenants. C'est pour avoir un discours qui soit cohérent pour les enseignants, et en même temps un discours qui soit ancré avec la réalité de la recherche.
Oui, et dans les sciences, moi, ce que j'ai toujours ressenti par rapport à ça, c'est que c'était brut, en fait. C'était brut de décoffrage. On avait plein de données, on ne peut pas les contester parce que c'est les sciences.
Ça,
c'était mon ressenti personnel.
Alors, si on ne peut pas les contester, c'est
pas la science. À la primaire et au collège, on ne nous apprend pas trop à questionner les sciences, enfin, du coup, de l'époque génération 97, quoi.
Ouais, voilà. Et la question, c'est bien questionner les sciences. Et alors, dans nos formations aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est quand il y a plusieurs disciplines qui sont représentées, que les professeurs apprennent à sortir pour penser, pour traiter un problème de leur discipline, mais regardent aussi les implications dans les autres disciplines, et donc qu'il y ait une ouverture et aussi la possibilité de collaboration sur des projets dans les établissements.
Et le questionnement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire émerger. Nous, sur nos formations, on met les enseignants face à des situations questionnantes et on se rend compte qu'ils ont bien du mal parce que ça s'apprend en fait à se questionner. Et si on laisse pas la possibilité aux gens de se questionner, et ben ils le font pas. Et les élèves, c'est pareil. Au tout début, je pense que les enseignants qui se lancent dans la démarche d'investigation, c'est un peu difficile d'avoir les questions des élèves, ils osent pas, etc. Mais c'est une habitude à prendre.
C'est sûr que c'est pas facile de se questionner parce que c'est tout de suite une remise en question de ce qu'on fait, de nos méthodes, de nos habitudes.
Même de l'histoire parfois.
Voilà, et c'est pas facile parce que parfois se questionner, ça exige des ajustements qu'on n'aime pas forcément faire.
Oui. Et aussi, c'est vrai qu'on sort des zones de confort.
Exactement.
Mais ça montre une volonté de comprendre.
Voilà. Oui, c'est un très beau message de fin et très positif. Et du coup, je vais repasser l'antenne à René.
Bien, voilà.
Et je vous remercie, bien sûr.
Merci à vous. Donc, nous étions avec M. Jean-Philippe Cassard, directeur de la Maison pour la Science Nord-Pas-de-Calais, et Mme Thylane Lu, qui est directrice adjointe de cette même Maison pour la Science Nord-Pas-de-Calais. Et bien sûr, Alice nous a rejoint, Alice Gapin, qui va poursuivre après avec l'autre émission, celle donc consacrée à la culture, au spectacle dans la région. Et d'ailleurs, je sais que Jean-Philippe Cassard est un grand passionné de culture. Il a démontré ici, avec notamment l'espace culture, et voilà, toute son implication dans le développement culturel de l'Université de Lille. Donc voilà, la science, c'est aussi de la culture, bien sûr. Voilà. Et puis donc, merci à Noémie Glore. Si elle veut rester, elle peut.
Je reste avec plaisir. Voilà. Merci.
Merci. Donc, un peu de musique. On se retrouve pour l'émission. Quoi de neuf, comme chaque mercredi, entre 16h30 et 18h. On va parler dans quelques instants du festival Latitude Contemporaine. Bonne écoute.